Alors bonjour à tous. Déjà, je suis bien contente d'être là avec vous autres, même si je ne suis pas québécoise du tout. Je suis française, je m'appelle donc Sabine Bretz. Je suis rattachée à l'Université Laval pour mon doctorat en droit, sachant que je n'ai pas pu faire mon projet de thèse sur la protection du bien-être animal dans le monde en France. Étant donné la grande ouverture d'esprit académique que nous avons dans notre beau pays. Donc c'est pour ça que je me suis expatriée au Canada pour réaliser mon projet de thèse dont je vais vous parler cet après-midi, avec quelques résultats de recherche déjà. Alors bon, c'est un peu ingrat de passer maintenant, parce que vous avez eu une grosse semaine bien chargée déjà, et puis une grosse soirée hier soir aussi, j'ai cru comprendre. Donc j'espère que vous arriverez à me suivre. Et puis, si moi, j'arrive pas à me suivre non plus, au pire, j'ai préparé des diapos, donc on pourra toujours lire des diapos si on est perdu. Voilà. Si toutefois, j'ai le ton qui baisse aussi, n'hésitez pas à me dire de parler plus fort. Puis voilà, puis je pense qu'après, par contre, pour les commentaires et les questions, on rassemblera ça plutôt à la fin de la présentation. Voilà, donc le titre, c'est « La protection juridique du bien-être animal dans le monde ». Ça peut faire un peu peur comme titre, comme ça, mais bon, je pense qu'au fil de la présentation, vous comprendrez mieux de quoi ça parle précisément. Alors déjà, je vais vous parler de mon parcours et de mes implications, pas pour vous déballer mon palmarès, mais plutôt pour me présenter un peu et puis pour vous parler un petit peu de mon parcours, voilà, de mes implications. Donc au niveau du parcours universitaire, j'ai fait ma licence de droit public à Montpellier. Ensuite, je suis partie au Québec déjà pour faire mon master en droit international de l'environnement. Et j'ai passé 4 ans avec des organisations internationales de protection de la biodiversité. Donc j'ai mis des titres, bon après je pourrais développer si c'est des organismes qui vous intéressent, mais en gros voilà, il y a WWF, la Convention sur la diversité biologique, l'Université de Californie, Berkeley. Et le projet IMOCED, qui est un projet en fait qui vise à développer la même chose que le GIEC pour le climat, mais pour la protection de la biodiversité. Et ensuite, donc, j'en suis revenue à vraiment ce qui moi me tient le plus à cœur, c'est-à-dire vraiment la protection des animaux en tant qu'individus. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait du droit depuis le début, c'est vraiment pour faire de la protection animale, pour mener que ça m'a toujours tenu à cœur et que c'est aussi quelque chose qui, fort heureusement, se développe de plus en plus. Donc voilà, j'ai pris le train en marche et je suis là donc, aussi aujourd'hui pour vous en parler. Et au niveau des implications professionnelles, parce que sur le plan personnel, voilà, je milite aussi au sein de plusieurs organisations en France, dans le monde, et puis au niveau local à Montpellier, là où j'habite. Mais sinon, au niveau professionnel, donc, je suis membre de l'Association des juristes pour le bien-être animal, qui se trouve en Angleterre. Du collectif juriste animaux en France, du groupe de recherche international en droit animal qui est basé au Québec, et de la Fondation en droit animal, éthique et sciences, qui prévoit donc à Paris en octobre une conférence sur la souffrance animale de la science au droit. Donc on peut tous s'y inscrire, bien sûr. Là, c'est la fin des inscriptions. Donc, si vous souhaitez y aller, c'est possible, bien sûr, mais il faut s'inscrire et il faut s'y prendre assez rapidement. À partir du moment où on est impliqué... Parce que moi, je pensais qu'à partir du moment où on était impliqué d'une manière ou d'une autre... Voilà, d'accord. Oui, enfin, au niveau professionnel, oui, ça, je sais qu'au niveau professionnel, dès qu'on a une profession qui est liée à la cause animale, normalement, on peut y participer. Voilà. Donc, ensuite, les quelques articles récents qui sont parus, qui sont consultables en ligne. Voilà, vous pouvez taper généralement sur ces sites, soit mon nom, soit les mots-clés de l'article, et vous tomberez dessus. Donc, il faut interdire la corrida partout en France, dans le journal lemonde.fr le 7 juin 2012. Dans la revue de ce mois-ci de la LFDA, un article sur l'ONU et le bien-être animal. Pour la revue prochaine, il y aura un article sur les limites de la réglementation bio en matière de bien-être animal. Aussi, dans les deux revues anglaises et espagnoles en ligne, un article sur la protection du bien-être animal, une préoccupation universelle émergente devant être adressée sérieusement et adéquatement par le droit international. Et enfin, un article aussi de ce mois-ci, Politique anti-fourrure et incohérence européenne, vers une interdiction des élevages d'animaux à fourrure en droit communautaire. Voilà, donc vous pouvez les consulter en ligne si ça vous intéresse. Alors ensuite, par rapport à la présentation en elle-même, déjà des éléments de définition de ce que j'entends, on va dire, dans le cadre de cette présentation du bien-être animal et de sa protection juridique dans le monde. Alors, bien-être animal versus mal-être animal, bon, on a tous quand même une grosse idée, surtout ici, de ce qu'est le bien-être animal comparé au mal-être des animaux, avec bon, deux exemples, on va dire, un peu extrêmes, le lavage dans ces alpages, l'image bucolique qu'on nous en présente et la réalité la plus cruelle qui existe en réalité. Puis aussi le chat de laboratoire avec le chat de salon. Pacha, pour faire un mauvais jeu de mots. Et puis en fait, ouais, dans le droit, finalement, quand on parle de bien-être animal, on se rend compte que dans les faits, on cherche plus comme objectif une absence de mal-être qu'un réel bien-être, comme on pourrait l'entendre dans le sens de, dans son sens optimal ou idéal, de bonheur, d'épanouissement, etc. C'est plus vraiment, on va chercher à minimiser les souffrances, peut-être les pires, dans la mesure du possible. C'est donc un bien-être, absence de mal-être, et pas un bien-être optimal, de toute façon, qui est recherché en règle générale dans le droit. Comme définition du bien-être animal, il n'y en a pas qui existe dans le droit positif à l'heure actuelle. J'en ai trouvé dans aucune loi, aucun instrument européen ou international. Bien que il y ait une définition qui existe au sein de l'Organisation mondiale de la santé animale, que je vais présenter, et aussi des principes directeurs internationaux qui sont relativement acceptés à l'unanimité par la communauté internationale. Alors, cette définition de l'Organisation mondiale de la santé animale, c'est moins une définition qu'une énumération, on va dire, de critères. Donc, elle est assez longue, mais on va les lire ensemble quand même. Le bien-être animal, d'un animal évalué selon des bases scientifiques est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis. Bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d'expression du comportement naturel, absence de souffrance telle que douleur, peur ou détresse. Le bien-être animal requiert des éléments suivants. Prévention et traitement des maladies, protection appropriée, soins, alimentation adaptée, manipulation réalisée sans cruauté, abattage ou mise à mort effectuée dans des conditions décentes. La notion de bien-être animal se réfère à l'état de l'animal. Le traitement qu'un animal reçoit est couvert par d'autres termes, tels que soins, conditions d'élevage et de bien-traitance. Alors, je ne mettrai pas de commentaires spécifiques là-dessus. C'est juste pour vous... parler de cette définition-là qui existe et qui sert malgré tout de base, on va dire, législative au niveau international avant d'avoir un traité ou quelque chose de plus conséquent sur cette question. Alors, une proposition de définition, on va dire, plus synthétique, ça pourrait être, en vertu de ces éléments, que le bien-être animal, c'est d'état positif résultant de l'absence de souffrance physique et psychologique des animaux, ainsi que de la satisfaction des besoins propres à chaque espèce animale. Pour détailler un peu, l'absence de souffrance, donc ce serait à la fois physique et psychologique, donc de souffrance physique, faim, soif, maladie, blessure, etc. Psychologique, peur, stress, détresse, etc. Avec deux illustrations, on va dire, de chaque cas. Et la satisfaction des besoins, tant fondamentaux que comportementaux. Par besoins fondamentaux, j'entends des besoins vitaux, tels que l'alimentation, les soins... un espace suffisant, etc., et comportementaux, qui sont des besoins variables selon chaque espèce, avec l'illustration des oiseaux qui ont besoin fondamental, le premier c'est sans doute de voler, et le bison qui n'a pas accès à l'eau dans sa petite cage d'élevage pour la fourrure. Les principes directeurs internationaux sur le bien-être animal qui sont acceptés mondialement au sein de cette organisation, c'est le principe d'idée simple, liberté dans le cadre de l'élevage intensif, et le principe des 3 R en matière d'expérimentation animale. Donc les 5 libertés qu'on devrait plutôt appeler les 5 besoins fondamentaux, justement, dans le cadre de l'élevage intensif, l'absence de faim, soif ou malnutrition, l'absence de douleur, de lésions ou de maladie, l'absence de stress climatique ou physique, l'absence de peur ou d'angoisse, et la possibilité d'exprimer des comportements normaux. Ensuite, concernant le principe des 3 R en matière d'expérimentation, donc remplacement, réduction, raffinement, remplacement des méthodes alternatives aux animaux vivants par d'autres méthodes, réduction, c'est-à-dire la diminution du nombre d'animaux testés et leur rapidement la minimisation des souffrances pendant les tests. Sans doute que pas mal d'entre vous connaissent déjà ces principes, mais bon, j'ai voulu quand même les représenter au cas où il y en ait parmi vous qui ne les connaissent pas. Alors, qu'est-ce que j'entends par la protection juridique du bien-être animal dans le monde? C'est un double sens dans le cadre de mon travail. C'est une protection à la fois à travers le monde, en prenant chaque pays individuellement, et aussi sa protection à l'échelle mondiale, quand on prend les pays collectivement au sein des grosses organisations intergouvernementales, comme l'OIE, donc l'Organisation mondiale de la santé animale, ou là j'ai pris l'exemple de l'ONU, qui est l'exemple de l'organisation universelle qui rassemble tous les pays souverains de la planète. J'ai identifié aussi trois niveaux essentiels de protection du bien-être animal, au niveau juridique, au niveau national, avec des lois qui existent ou qui n'existent pas d'ailleurs, dans chaque pays du monde. Le niveau européen, qui est la seule protection régionale conséquente. Et le niveau international, qui réunit plusieurs, voire tous les pays du monde. La protection nationale du bien-être animal, essentiellement, donc, elle est composée de lois, de constitutions, enfin plutôt de dispositions constitutionnelles et de codes pénal, criminel. En France, ce serait le code pénal, et, enfin une disposition du code pénal. Au Canada, une disposition du code criminel. Alors, pour parler quand même brièvement de ces lois et ces constitutions, les lois, il y en a dans... Enfin, moi, pour le recensement que j'ai fait, sachant qu'il n'y a pas de base de données qui existe, j'ai recensé 65 pays sur les 5 continents qui ont des lois de protection générale des animaux en tant qu'individus, donc c'est soit des lois dites anti-cruauté, qui vont réprimer les mauvais traitements ou les actes cruels envers les animaux, ou certains animaux plutôt, étant donné que c'est généralement des animaux domestiques, beaucoup plus que des animaux sauvages. Également, depuis justement les années 2000, avec l'émergence de la question au niveau international, il y a des lois qui sont plus générales, qui parlent de protection du bien-être animal, mais qui là sont beaucoup moins répressives et qui sont plus positives dans les termes, c'est-à-dire plutôt que d'interdire certains actes, elles vont promouvoir la bien-traitance des animaux, les soins, etc. Mais finalement, dans les faits, il n'y a pas énormément de répression qui est prévue. Les constitutions, il y a quelques pays qui prévoient des dispositions constitutionnelles propres à la protection du bien-être des animaux en tant qu'individu. Il y a la constitution en Suisse qui parle du principe de dignité des animaux. Il y a la constitution indienne qui parle du devoir de compassion envers les êtres vivants. Il y a la constitution allemande qui a une disposition générale de protection des animaux et celle du Luxembourg qui parle de protection et de bien-être des animaux. Donc les codes pénal en France, c'est l'article 521.1 du code pénal qui réprime ou est censé réprimer les actes de cruauté et les sévices envers les animaux, à l'exception bien sûr à l'alinéa 7 de la corrida et des combats de coqs. Là où une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Donc les combats de coqs, c'est surtout dans le nord de la France et dans les îles. Et puis la corrida, c'est les départements du sud de la France. Ensuite, il y a quelques pays qui sont aussi en voie d'adoption de lois de protection. L'Égypte, le Honduras, le Mexique, la Russie et la Chine. Donc si tout se passe bien, il devrait y avoir des lois qui devraient apparaître d'ici peu. Alors, je fais un petit coloriage de ce que ça représente visuellement, ces pays. Il y en a 65, donc c'est vraiment pas la majorité. C'est un tiers, on va dire, des pays du monde, même un peu moins. Et par contre, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on les retrouve vraiment éparpillés un peu partout. Bon, bien sûr, l'Occident a quand même une majorité de lois, on va dire, comparée au reste. Mais on en parlait aussi jeudi matin, en fait, par rapport à l'influence anglaise sur ces colonies. Et il est bien certain que ces pays qui sont là, ceux-là aussi qui ont été quand même sous influence anglo-saxonne, le Canada, et quand même aussi l'un des pays alentours, il y a quand même eu l'influence anglaise qui a joué pour qu'ils aient des lois de protection, surtout pour les pays africains. à savoir que l'Angleterre donc, est le premier pays à avoir adopté une loi de protection des animaux en tant qu'individus en 1822. C'est la loi dont a parlé Fabien Carlier jeudi matin, voilà, et qui ensuite a lancé le mouvement au niveau européen, dans ses colonies, etc. Alors après, pareil, si vous avez des questions, on pourra revenir dessus sur les autres pays. En ce qui concerne la protection européenne du bien-être animal, le Conseil de l'Europe a commencé à adopter des conventions depuis les années 70 en matière de transport, d'abattage, d'élevage, d'expérimentation et sur les animaux de compagnie, et relayé ensuite par l'Union européenne dans les années 80, depuis les années 90, avec des directives et des règlements dans de nombreux domaines, ainsi que des traités qui désormais prévoient explicitement la protection du bien-être animal. En 97, c'était un protocole qui était annexé au traité d'Amsterdam, et maintenant, c'est directement inclus dans le traité lui-même. Alors, en fait, juridiquement, ça fait quand même une différence, parce que moi, de mon avis de juriste, c'est que c'est désormais un principe général du droit communautaire. C'est-à-dire que c'est vraiment un principe qui fait partie des objectifs de l'Union européenne. En tout cas, c'est formulé comme ça, et la valeur dans le traité, c'est celle-là. Donc ça a vraiment une valeur juridique de nos jours, tant dans le traité de Lisbonne de 2008, que dans le traité d'établissement de constitution pour l'Europe de 2004. Il y a eu aussi un plan d'action 2006-2012 qui a permis de faire quelques avancées en matière de protection animale, notamment avec l'obligation des cages enrichies là, pour les poules pondeuses, même si bon, dans les faits, c'est pas énorme, et puis il y a énormément de problèmes d'application. Ça, c'est, on le retrouve au niveau national, européen, international, les problèmes d'application, de toute façon, c'est partout. Mais malgré tout, l'Union européenne essaie de vraiment s'investir pour certains pays, on va dire, les pays moteurs, qui essayent de faire avancer la cause au niveau européen, au niveau communautaire. Quand je parle communautaire, donc c'est l'Union européenne. Et il y a une nouvelle stratégie 2012-2015 qui est mise en place et qui prévoit d'autres avancées, comme par exemple l'interdiction des stalles pour les truies gestantes, et également une loi, enfin, un instrument européen global sur le bien-être animal qui permettrait un peu de codifier tous les instruments qui existent aujourd'hui pour faire un méga instrument sur la protection du bien-être animal en droit communautaire. Il y a également des communications internationales qui sont à l'initiative de l'Union européenne, par exemple au sein de l'Organisation mondiale du commerce, pour pareil un petit peu faire rayonner cette protection ailleurs qu'en Europe. Et on en a parlé aussi, je crois que c'était mercredi après-midi, des embargos qui ont été adoptés par l'Union européenne sur les fourrures de phoques, de chats et de chiens, et d'autres mesures aussi protectrices du bien-être des animaux, qui s'adressaient directement à d'autres pays et qui ont posé quand même pas mal de soucis à l'Organisation mondiale du commerce, bien qu'il n'y ait jamais eu de procès sur ces questions-là, ça a toujours été évité, et que c'est quand même des embargos qui sont en vigueur et qui sont effectifs, même si c'est contraire aux règles du libre-échange au sein de l'Organisation mondiale du commerce. Donc voilà visuellement ce que ça représente, le Conseil de l'Europe avec les 47 membres, donc voilà, coloriés en rouge là tout autour, et l'Union européenne en rouge avec les 27 membres. La protection internationale du bien-être animal maintenant, c'est bon, moi ce qui me concerne le plus dans mon travail. Il n'y a aucun traité aujourd'hui qui existe sur la protection du bien-être des animaux ou généralement sur la protection des animaux en tant qu'individus, contrairement au traité de conservation des espèces menacées voilà, qui existe depuis les années 70. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, je pense que vous connaissez très bien la différence entre l'un et l'autre. Sinon, pareil, on pourra en reparler après. Il y a des instruments internationaux non contraignants donc, qui existent, notamment les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, au sein de laquelle le bien-être animal est devenu une nouvelle priorité depuis 2004. Même si, on s'entend, l'Organisation mondiale de la santé animale a pour vocation de protéger la santé animale dans le but de protéger la santé humaine et non pas de couvrir tous les problèmes de bien-être animal ou de maltraitance animale. C'est pour ça que les normes couvrent essentiellement tout ce qui est relatif à la consommation des animaux, également aux chiens errants. Et elles commencent aussi à s'impliquer de plus en plus dans ce qui est l'expérimentation. Mais on va dire que quand même, l'objectif de cette organisation, au départ, c'était l'Office international des épizooties. Et donc, c'était pour éviter qu'il y ait des maladies qui se transmettent des animaux aux êtres humains. Donc, sa vocation, je pense, ça ne changera pas énormément. Et ça ne va pas devenir du jour au lendemain l'organisation destinée à protéger le bien-être des animaux pour eux-mêmes. Malgré tout, il y a quand même des normes qui ont été adoptées et qui établissent des normes internationales en faveur, on va dire, d'un moins pire mal-être des animaux dans certaines conditions. Et il y a également un projet de déclaration universelle sur la protection du bien-être animal qui est soutenu par 330 grosses organisations ainsi que pas mal de pays pour être adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies. Voilà, donc c'est en discussion, il y a eu plusieurs versions et ça continue à être discuté. Il y a pas mal de lobbying qui est fait surtout par l'Organisation mondiale de la protection animale, WSPA, qui soutient la campagne en faveur de cette déclaration. Donc pour l'instant, quid, on ne sait pas si ça va être adopté ou pas, mais ça avance, doucement mais sûrement. Donc, la protection internationale au sein de l'OIE, c'est 178 États qui sont coloriés en vert. Alors, on a l'impression qu'ils y sont tous quasiment, mais il y a plein de petits États, de petites îles, tout ça qui ne sont pas, parce qu'au sein de l'ONU, il y a 193 États qui sont recensés. Donc, il y en a quelques-uns qui ne figurent pas, mais les plus importants, on va dire, font partie de cette organisation. Et pourquoi le Groenland, je l'ai colorié en jaune, c'est parce que, alors je n'ai pas réussi à trouver, étant donné que Groenland dépendait du Danemark avant, et que le Danemark est parti de cette organisation, je ne sais pas si le Groenland est encore un État membre de cette organisation, ou si maintenant qu'il est devenu indépendant, il n'en fait pas partie, mais bon, disons que ce n'est pas essentiel, mais c'est juste une précision. La protection juridique du bien-être animal dans le monde, visuellement, donc ça représente ça. Enfin, j'ai essayé de créer quelque chose d'assez visuel pour représenter. Les pays en vert, c'est ceux qui ont uniquement la protection internationale avec les normes de l'OIE. Ceux qui sont en bleu foncé, là, c'est ceux qui ont uniquement une protection nationale. Et ensuite, donc, comme je l'ai montré là, dans la deuxième diapo, c'est l'Union européenne et le Conseil de l'Europe. Et les points noirs, c'est les pays qui sont en voie d'adoption de nouvelles lois. Alors, concernant mon projet de thèse sur la protection du bien-être en droit international, du bien-être animal, pardon, en droit international. Le constat de départ, c'est que les animaux en tant qu'individus donc, ne sont pas protégés en droit international, contrairement aux espèces menacées. Que certains droits nationaux et le droit européen protègent le bien-être animal, mais que cette protection n'est ni uniforme ni universelle à l'échelle de la planète, et que le droit international peut permettre cette protection à travers une base de protection commune à l'ensemble des États et un cadre général de protection. Mon postulat théorique, c'est que le bien-être des animaux mériterait d'être mondialement protégé par le droit international en vertu d'une base scientifique, éthique et juridique. Scientifiquement, donc, les animaux sont des êtres sensibles, base éthique, nous leur devons un traitement moral, et juridique, le droit peut constituer un outil pour permettre de les protéger. À travers donc soit des interdictions de maltraitance et ou des obligations de bien-traitance. L'étendue de mon champ de recherche, c'est vraiment global, c'est-à-dire ça couvre toutes les activités, l'utilisation des animaux à des fins alimentaires, l'élevage intensif, les différentes formes d'abattage, le foie gras, etc., à des fins vestimentaires, la capture et l'élevage des animaux pour leur fourrure, des fins cosmétiques et médicales, etc., en ce qui concerne l'expérimentation animale, les animaux de compagnie, les mauvais traitements, l'abandon, etc., la captivité dans les zoos, les parcs aquatiques, les fermes d'ours en Asie, etc., et les divertissements comme les combats d'animaux, les cirques, la corrida, la chasse, autres spectacles qu'on peut trouver un peu partout dans le monde, enfin 10 spectacles. Ça couvre aussi tous les animaux, tant domestiques que sauvages, à partir du moment où on considère les animaux en tant qu'individus et non en tant qu'espèces. Et également les animaux vertébrés, dits sensibles, même si, à mon avis, même s'il n'est pas prouvé que certains sont sensibles, comme par exemple certains insectes ou d'autres invertébrés, ça ne peut pas ôter le bénéfice du doute qu'ils le soient, et peut-être un jour très prochain, on prouvera que c'est des êtres sensibles. Donc c'est pour ça que, quand je parle d'un cadre général et global à l'échelle mondiale, ce serait bien justement d'inclure l'ensemble des animaux en conservant ce bénéfice du doute-là, qu'ils puissent être potentiellement tous sensibles. La pertinence et la contribution de cette recherche, alors elle est pertinente à mon avis à la fois sur le plan social et scientifique, et je vais aussi présenter rapidement les principales contributions pour la science du droit. Science du droit, ça peut paraître bizarre, mais oui, enfin, c'est une science molle, très molle même, comparée aux sciences dures, en tant que science sociale, mais bon, c'est catégorisé comme une science quand même. Pertinence sociale, on sait que la protection du bien-être des animaux, on constate, c'est une préoccupation éthique et croissante dans le monde, à travers de plus en plus d'informations, de sensibilisation et de mobilisation. Il y a aussi donc le rôle accru des médias et des associations en ce sens. Et c'est une préoccupation qui est universelle, qui concerne vraiment tous les pays du monde et qui est aussi ancestrale, sachant qu'il y a des penseurs de l'Antiquité dès le 5e siècle avant Jésus-Christ qui se sont penchés sur ces questions-là. Donc contrairement à un préjugé assez répandu, c'est une préoccupation qui est ni nouvelle, ni seulement occidentale. Pertinence scientifique. Alors, la protection du bien-être animal, c'est vraiment un sujet qui est interdisciplinaire en soi, qui se situe vraiment entre la science, l'éthique et le droit. La science, bon, c'est surtout la biologie avec la neurobiologie et l'écologie, science du comportement. L'éthique animale, en tant que sous-discipline de la philosophie morale, et le droit des animaux, qui a commencé à se développer dans les pays anglophones, et qui commence à peine à émerger et qui peine encore à trouver sa place dans les systèmes francophones, sachant qu'au Québec, ça commence à être enseigné depuis cette année, mais qu'en France, on ne parle pas encore des droits des animaux dans les universités, et ce n'est pas encore du tout reconnu comme une discipline juridique, alors que dans les pays anglophones, c'est reconnu et enseigné depuis un siècle et demi déjà. Par contre, il y a quand même une recrudescence de livres, de revues, de colloques et d'activités scientifiques, y compris dans les pays francophones, à ce sujet. Donc on voit que c'est quand même en train de pas mal bouger. Les contributions juridiques de ma thèse, donc déjà dans un premier temps, j'ai présenté une vue d'ensemble de la protection juridique du bien-être animal dans le monde, en épluchant et en détaillant chacun des niveaux de protection nationale, européenne, internationale. Et puis dans un deuxième temps, je vais développer les possibilités d'une protection mondiale du bien-être animal en droit international, en passant par les sources formelles du droit international, qui sont les traités, la coutume et les principes généraux. Mais bon, ça, c'est quand même assez juridique, donc je développerai pas plus, mais je pense que vous avez compris l'idée. L'hypothèse que je soutiens principalement, c'est qu'il existe des valeurs éthiques et des pratiques juridiques communes à l'ensemble des États, du moins à leur grande majorité, et que ces points communs peuvent constituer le fond commun d'un droit international du bien-être des animaux. Et également que la protection du bien-être animal en droit international témoignerait de la prise en compte des connaissances éthiques et scientifiques actuelles par la communauté internationale, à travers notamment la reconnaissance du fait que les animaux sont des êtres vivants sensibles, envers lesquels nous avons des obligations morales qui doivent être traduites en obligations juridiques effectives. Quelles sont les limites et les possibilités réalistes vers une protection mondiale du bien-être animal en droit international? Alors, les grandes limites, évidemment, c'est les limites économiques et culturelles, avec les intérêts économiques, bien sûr. Vous savez, c'est des activités qui génèrent des profits hyper importants, notamment les élevages intensifs et les entreprises pharmaceutiques. Et également les pratiques culturelles et religieuses qui ont une dimension identitaire forte et qui est vraiment un obstacle de taille, pas évident à contourner, surtout avec toutes les disparités culturelles qu'on peut retrouver dans le monde. Et en plus, on retrouve des exceptions au niveau législatif dans l'ensemble des pays du monde. Donc finalement, on se rend compte que la protection du gain et des traditions passe généralement avant la protection des animaux, même s'il y a quand même des avancées importantes, de plus en plus, heureusement, qui se font, avec l'interdiction des expérimentations pour la recherche et l'éducation, par exemple en Inde, l'abolition de la corrida en Catalogne et dans certaines capitales comme Bogota ou aussi au Pérou. Enfin, je veux dire, il y a quand même pas mal d'avancées. Je ne donnerai pas tous les exemples parce qu'il y en a quand même pas mal, mais malgré tout, il y a des avancées assez importantes et de plus en plus, même si ces deux limites-là sont quand même encore très très fortes et malheureusement très importantes. Les possibilités vers une protection mondiale, c'est qu'on se rend compte que la protection juridique du bien-être animal progresse globalement dans le monde, et ce à tous les niveaux, que ce soit national, européen et international, avec des actions positives de la communauté internationale, que ce soit les normes de l'Organisation mondiale de la santé animale, et aussi le projet de déclaration au sein de l'Organisation des Nations Unies, au sein de l'ONU, voilà, ça fait ça. Et aussi, donc, les États, on va dire, auraient tout intérêt à avoir une base de protection uniforme du bien-être animal lorsqu'ils ont justement des conflits à l'OMC, comme par exemple voilà, au sujet des embargos de certains produits en vertu de leur méthode de production. Il n'y a aucun texte qui existe par rapport à ça. C'est un problème que l'Organisation mondiale du commerce elle-même essaye d'éviter et de contourner le plus possible, parce que oui, il y a la liberté des échanges qui fait partie, enfin, qui est l'objectif, on va dire, principal de l'OMC, mais en même temps, il y a une exception à son article 20A qui dit qu'un État peut adopter des mesures pour protéger sa moralité publique, et la protection du bien-être animal pourrait faire partie justement de cette protection de la moralité publique-là. Donc c'est pour ça qu'en fait, à chaque fois, ils évitent le sujet pour avoir à éviter d'adresser cette exception-là qui n'a jamais été adressée pour l'instant en matière de protection animale. Les conclusions générales, je me répète, mais voilà, c'est quand même la conclusion générale. La protection du bien-être animal progresse globalement au niveau juridique dans le monde, même s'il n'existe encore aucun traité international de protection. Et alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce serait la panacée pour remédier aux souffrances, dans le sens que est-ce que Kyoto a traité le réchauffement de la planète? Ben non, ça c'est sûr, hein, ça n'a pas résolu le problème du jour au lendemain. Par contre, ça a été quand même une prise de conscience importante au niveau mondial. Et en l'occurrence, un traité international sur le bien-être animal, ce serait une première étape importante et nécessaire à mon avis, pour reconnaître mondialement le statut d'être sensible des animaux et le besoin d'une protection globale de leur bien-être. Et ce, pour tous les animaux, toutes les activités et tous les pays du monde. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.